Bien, bonjour Andoris,
Bonjour.
merci de bien vouloir répondre aux questions d'ActuSF, donc à l'occasion des Utopiales et de la sortie donc du troisième volet du Cercle. Alors avant d'en venir un peu plus précisément sur la série, est-ce que tu peux te présenter rapidement comment tu en es venu à la BD
Alors donc, je suis scénariste pour Delcourt exclusivement, enfin pour l'instant, depuis
mmh.
2011. Je suis arrivée chez Delcourt avec une série jeunesse qui s'appelle Les Enfants d'Evernight, qui est sortie sous la direction de David Chauvel. Et très rapidement, en fait, en même temps qu'on travaillait sur la suite de cette série, puisqu'elle n'est pas encore achevée, David m'a proposé de travailler donc sur d'autres projets, notamment un set dans la série des sets, le set naufragé dans la deuxième saison. Il m'a également proposé donc de travailler avec différents dessinateurs. À chaque fois ils me présentaient leur travail et moi je proposais des dossiers. C'est ce qui s'est passé pour le Cercle. Il m'a présenté le travail de Nesquin, il m'a demandé si j'imaginais une histoire pour lui. Très très vite, en fait, j'ai pensé à un espèce de polar fantastique urbain, et donc je lui ai proposé et il a dit oh là là, c'est vachement bien, Nesquin, on y va. Voilà, donc ça s'est fait dans la foulée très très rapidement.
Donc on peut dire que la boucle est bouclée, dans un certain sens. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur un peu plus précisément sur la genèse
du
cercle.
Cercle. Oui. Donc moi de prime abord en fait, hein, j'avais la sensation de travail sur une ville, surtout une unité de lieu. Une ville dans laquelle donc on retrouvait certains personnages et notamment un personnage emblématique qui est le personnage de Nicolas. C'est le premier personnage que j'ai décrit pour cette série. J'ai vu ce personnage en train de marcher dans une ville et très rapidement en fait il est apparu qu'il voyait pas les mêmes couleurs que le commun des mortels. Donc je me suis dit ok, ce personnage il a la capacité de voir les vraies couleurs du monde et donc du coup le reste de la genèse du cercle s'est articulé autour de ce personnage là c'est-à-dire que j'ai essayé d'agrandir pour voir la ville dans laquelle il évoluait, j'ai essayé d'agrandir pour voir le monde dans lequel il évoluait, j'ai vu les gens qui étaient proches de lui, donc les autres personnages en fait, et j'ai ouvert à partir de là. Ça s'est fait en deux temps puisque j'ai d'abord eu cette création de l'univers autour du personnage de Nicolas et ensuite j'ai un personnage que j'avais créé depuis très très longtemps, qui était dans un autre projet, qui avait rien à voir, qui est venu s'inscrire en fait dans le cercle, c'est le personnage de Lorelai. Je me suis aperçue que le monde dans lequel évoluait Lorelai et le monde dans lequel évoluait Nicolas, c'était les mêmes. Voilà, c'était juste qu'ils ne s'étaient pas encore rencontrés. Donc du coup, une fois que j'ai eu tout ce petit monde, donc j'avais quatre personnages au final, j'ai réussi à construire à peu près les règles de l'univers et à dire comment ça fonctionnait. Et là, j'étais prête à lancer l'écriture du scénario avec l'envie d'un polar fantastique autour d'une enquête centrée sur ces personnages extraordinaires.
Effectivement, on retrouve un rapport avec le polar, donc le côté un peu très sombre, le côté vraiment urbain. Justement, le personnage de Nicolas, ça fait un peu penser au personnage du détective un peu noir.
Tout à fait, oui.
Qui est un peu dans la ville.
Il y a beaucoup de Constantine. Dans le personnage de Nicolas, il y a beaucoup du personnage de Constantine.
Et les autres personnages donc se sont greffés autour de lui naturellement.
Tout à fait. Les autres se sont greffés autour de lui naturellement, y compris Lorelai, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais le personnage de Nicolas, je dès le départ en fait, je le voyais très ami avec une jeune fille beaucoup plus jeune que lui, une étudiante. Donc c'est le personnage de Pia qui est venu en deuxième, et en troisième le personnage d'Eric qui est venu lui par Pia. Donc voilà, une fois que j'ai eu ces trois-là, ça fonctionnait relativement bien. Et Lorelai est de base venue avec sa sœur aînée. Donc voilà, après j'avais tout mon petit monde. Mais c'est vraiment. Moi je fonctionne beaucoup avec les personnages en fait. Avant même de savoir où est-ce que l'histoire va m'emmener, j'essaye de créer des personnages que j'ai envie de suivre, des personnages qui sont cohérents, des personnages qui ont des ressentis forts de préférence. Parce que plus le personnage est entier, plus il est en trois dimensions, plus j'ai une chance que les interactions qu'il a avec les autres vont être non seulement fortes, mais en plus crédibles et elles vont, ça va être ma charpente en fait. Les relations entre les personnages, c'est la charpente de mon histoire.
Voilà. Et donc, en partant des personnages, est-ce que les pouvoirs sont venus de manière un peu comme Nicolas pour les couleurs? Est-ce que c'est venu automatiquement avec le personnage ou Est-ce que ça s'est fait naturellement ?
C'est venu automatiquement avec le personnage. C'était assez rigolo, mais oui, c'est venu automatiquement avec le personnage. J'en ai appris au fur et à mesure, hein, parce que c'est toujours comme ça et c'est un peu rigolo. Mais je savais que, enfin, je savais que le personnage de Pia, son pouvoir, c'était quand elle dormait. C'était forcément quand elle dormait. En sachant que, donc, ça fait partie des mm-hmm. choses que j'ai appris à la fin. Je me suis rendu compte à la fin, et ça a une explication, que Pia, même si elle voit des choses dans son sommeil, ça ne concerne forcément que les gens qui lui sont proches, en fait. Elle ne rêve que de ses amis, des gens proches. Donc, il y a presque une forme de don, enfin, lié à l'empathie, on va dire, dans son pouvoir. Et le personnage d'Eric, en fait, c'est... alors lui, il est venu complètement avec, parce que c'était dans son caractère. C'est-à-dire que immédiatement, quand j'ai vu le caractère de ce personnage, je me suis dit que ça allait être très imbriqué avec son pouvoir. Et ce concept de, bah voilà, j'ai des dizaines de voix qui parlent dans ma tête en permanence et je suis le seul à les entendre et je ne suis pas fou. C'est forcément, ça rend très cynique, très détaché des choses, parce que le personnage d'Eric a vraiment pensé d'ailleurs qu'il était cinglé, hein, dans sa jeunesse. Donc au moment où il se dit non, c'est juste que j'entends des voix et il va falloir que je fasse avec, c'est vrai que ça détache de ça. Oulala, bah tant pis, hein, on va faire comme si. Voilà.
Donc c'est, finalement, chaque personnage a un ancrage dans la réalité et avec un autre monde quelque part.
Tout à fait, oui. C'est le monde que j'appelle le vide, du coup. Mm-hmm. C'est comme si... Ça partait d'une constatation assez simple, en fait, très scientifique. Hein, c'est nous sommes dans un monde de matière et il aurait fallu presque rien pour qu'on soit dans un monde d'antimatière. Mm-hmm. Bon, je suis pas une physicienne, hein, mais du coup, moi, je me suis dit, bah, mon monde de matière, ça va être le plein. Voilà, c'est ce qui existe, c'est ce qui est tangible. Et tout autour, il y a le vide. Voilà, et c'est comme ça que j'ai créé mon monde, en sachant que les personnages du cercle ont leur pouvoir parce qu'ils sont, entre guillemets, à l'orée du vide. Voilà, ils sont à l'ouverture du vide. Donc c'est en tout cas la façon dont ils décrivent leur monde, en sachant que c'est pas des scientifiques, ils ont pas de preuves, il y a personne qui est venu leur raconter comment ça marchait. Donc c'est juste une constatation qu'ils ont fait en comparant les informations qu'ils arrivaient à obtenir de leur pouvoir. Par exemple, Eric, les voix qu'il entend se décrivent comme étant les voix du vide. Donc lui, il dit, les voix, elles sont dans le vide. Je ne sais pas où est le vide, mais les voix sont dans le vide. Voilà.
Donc ça permet finalement, au travers des personnages qui découvrent par bribes un peu le... Enfin, on découvre à travers chacun d'eux ce qu'il en est, l'univers prend une cohérence.
Tout à fait.
Et donc, moi, ce qui m'interpellait notamment, c'était le Magnolia qui revient régulièrement. Et pourquoi le Magnolia ?
Alors, pourquoi le Magnolia ? À la base, le choix de la fleur, on va dire, le choix de... c'est venu, voilà. C'était des Magnolias, c'était des Magnolias blancs qui tombaient. J'avais pas d'explication à cette première scène. J'avais cette vision de Pia sur la plage avec la pluie de Magnolia et je savais que c'était des Magnolia et je savais pas pourquoi. Donc c'est après, quand j'ai commencé à travailler sur le scénario, à développer mon dossier, que je me suis aperçue que le Magnolia, c'était donc cette entité. Je vais faire des spoilers, c'est mal, mais que c'était donc cette entité entre les deux. Et là, très très vite, en fait, c'est un autre mythe qui est venu se confronter à mon univers. C'est ce mythe de l'arbre, c'est le mythe de l'Yggdrasil, c'est l'arbre fondateur, voilà. Et donc, il est tout seul dans un monde où, entre les deux, cette représentation sous forme d'arbre était très 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 logique. Après, le Magnolia, c'est un arbre qui est extrêmement résistant et qui en même temps a une certaine prestance. Mais je pense que c'était surtout pour l'énorme fleur blanche qu'il générait que je l'ai choisi.
Et justement, donc, au niveau de la représentation, au niveau du dessin, comment ça s'est passé la collaboration avec Nesquin à ce niveau-là ?
Super bien, en fait. C'était assez spectaculaire parce qu'au départ, quand j'ai vu les pouvoirs de mes personnages, je me suis dit, oh là là, ça va être galère. Comment est-ce qu'on va... À part le pouvoir de Pia, tous les pouvoirs étaient hyper durs à représenter. Celui de Nicolas avec les couleurs, c'est des couleurs qui sont tangibles. De temps en temps, il y a des couleurs poisseuses qui l'agrippent. Donc c'est compliqué comme à représenter en dessin. Les voix du vide n'ont pas de... de description possible. Oui. C'est une voix. Donc c'était très compliqué aussi. Et le pire, c'était le pouvoir de Lorelai, parce que agir sur les sentiments des gens, ça se représente pas. Donc j'étais très inquiète à ce niveau-là. Moi, j'essayais de donner au maximum les impressions, les ressentis que j'avais quand je voyais ses pouvoirs s'exprimer. Et Neskin a fait un travail de fou. C'est-à-dire que dès qu'il proposait une mise en image de ce que je lui décrivais, ça collait. Ça collait merveilleusement. Le plus bel exemple, c'est cette première fois où on voit Nicolas entrer dans la ville avec sa vision des couleurs. Oui. La planche est absolument magnifique. On a l'impression de ressentir ce qu'il ressent. Ça le suit au moment où il tourne. Oui. C'est vraiment, pour le coup, tangible. Il a réussi à rendre ces impressions-là réelles. Donc non, c'est vraiment un travail génial qui a été fait. Et d'une manière générale, hein, moi je lui ai envoyé les 20 planches de scénario le lundi. Quand je recevais le storyboard, il y avait pratiquement rien à modifier. Il arrivait à s'accaparer le monde, les ambiances, les personnages très très facilement. Donc ça a été une collaboration tranquille.
Oui, enfin, on sent qu'il y a vraiment le dessin rend parfaitement bien ce qui n'était pas évident, c'est vrai, puisque la plupart des pouvoirs sont des pouvoirs qui sont pas on n'est pas dans les super-héros
les
comics avec quelque chose qui se voit.
Non. Ouais.
On est plus effectivement dans le ressenti, et c'est vrai que ça ressort bien à travers le...
Tout à fait. Non, c'était compliqué. Hein.
Mais j'imagine que ça devait pas être forcément évident. Et donc justement, qu'est-ce que ça a fait de voir vraiment en image que tu avais finalement dans la tête quelque
part. Ça a plusieurs effets. Le premier effet, c'est que la vision de mes personnages par le dessinateur remplace complètement la vision que j'avais précédemment. Donc une fois que j'ai les personnages dessinés par le dessinateur, quand je les imagine avec cet aspect-là. Donc ça me permet de simplifier certains efforts mentaux au moment où je travaille mon histoire. Et en fait, ça a rajouté des choses, c'est-à-dire son travail sur les ombres a posé les ambiances, ça assombrit mon écriture directement. Il a fait un travail sur les aplats de noir qui est absolument merveilleux. Hein. Quand on regarde sous la couleur les aplats de noir utilisés dans le cercle, c'est vraiment superbe. Et donc du coup, avec ce travail-là, moi j'ai senti que ça avait un impact sur mon écriture. Et très très vite, en fait, la façon dont les personnages interagissaient entre eux, il y a des relations que j'avais pas prévues qui se sont créées, il y a des évolutions possibles pour les personnages qui se sont mises en place. Et là-dessus, c'est vrai que le dessin me nourrit aussi. Quand je le reçois de la part du dessinateur, le dessin me nourrit sur l'écriture de la fin de la série. Voilà.
Très bien, alors pour en revenir un petit peu sur les pouvoirs justement, donc je vais en parler très rapidement un petit peu plus tôt, au niveau des comics par exemple, donc c'est des pouvoirs plutôt spectaculaires et qui en mettent plein la vue, là on n'est pas du tout dans ce cadre là, c'est des pouvoirs beaucoup plus discrets, moins spectaculaires effectivement, mais est-ce que justement c'était une nécessité d'avoir des pouvoirs peu spectaculaires pour pouvoir justement se concentrer sur les personnages plutôt que...
Non, je pense pas. Je pense que ça a été l'inverse, en fait. Et c'est-à-dire que vraiment, moi, j'aime beaucoup travailler sur la psyché de mes personnages. Plus ils sont torturés, plus je suis contente. Et donc, du coup, je me disais, voilà, ça, c'est des gens qui, comme Eric, se sont rendus compte très jeunes qu'il y avait un problème, entre guillemets. Ils perçoivent pas le monde de la même façon que le reste de l'humanité. Qu'est-ce que ça peut faire à un enfant de se rendre compte que sa perception du monde est différente de tous les autres ? Eh ben, il se croit fou, il se met tout seul à l'écart, en même temps il voudrait être avec les autres, c'est quand même un âge où on a un besoin d'identification, de groupe, l'enfance, l'adolescence, c'est un moment où au contraire on a envie d'être reconnu par ses pairs, donc je me suis dit ça a dû être hyper traumatisant, et donc du coup ça ne peut faire que des adultes un peu renfermés, un peu en retrait, qui ont dressé des murailles, qui se sont protégés. On a déjà de la chance, en fait, que ces personnages s'en soient sortis, entre guillemets. Le personnage d'Eric, il a fait des séjours en hôpital psychiatrique parce que, comme il se croyait fou, voilà, il s'était fait interner. Il y a un moment où il a réussi à vaincre les voix et à revenir dans le monde réel en disant « Oui, oui, j'entends plus rien, mais c'était du vent, il entendait toujours. » C'est juste qu'il s'est dit « Là, ça ne marche pas, je ne suis pas fou, il se passe autre chose. » Mais enfin, il n'y a aucun moment où ses enfants, puisqu'ils ont été des enfants, il n'y a aucun moment où ses enfants se disent « j'ai un super pouvoir ». Il n'y a que des moments où ils se disent « je suis anormal ». Et donc forcément, ça crée des adultes qui ont une relation au monde un petit peu biaisée. Donc pour moi, je me dis, même en ayant des super pouvoirs, il peut pas y avoir naturellement une explosion de joie, genre oh génial, je vais aller sauver le monde. Non, il y, y a forcément un moment où il voudrait pas avoir ces pouvoirs-là, où il préférerait être normal. Et je voulais que ça se ressente, en fait, cette espèce de malaise et cette espèce de volonté de conformisme en disant ok, bah on a des super pouvoirs, mais on va rester dans le monde réel, on va faire comme si on ressentait rien, on va essayer de se conformer à la réalité. Il y a que le personnage de Pia qui a pas ce travers-là, mais parce que comme elle l'explique très bien, son pouvoir s'est révélé très tard, donc elle avait déjà construit sa personnalité. Donc elle, après, une fois adulte, quand on hérite d'un super pouvoir une fois adulte, j'ai envie de dire, ça n'a pas d'influence sur la construction de l'être. Mais par contre, oui, si c'est fondateur dans l'enfance, ça doit être assez traumatisant. Vraiment, je vois pas comment on pourrait être content d'avoir quelque chose d'aussi frappant.
Oui, effectivement. C'est ce qu'on ressent un peu dans les comics Marvel avec Spider-Man, oui, par exemple, qui se retrouve avec le pouvoir qui lui arrive dessus, oui, à une période.
Oui, à une période critique.
Ce côté-là où ils s'interrogent un peu sur eux-mêmes, enfin, c'est des personnages humains finalement, comme les autres.
Tout à fait. C'était surtout cet accent-là c'était surtout ce truc-là que je voulais mettre en place. De voir cette humanité à travers le personnage, cette volonté d'humanité. Parce que. Ils savent pas très bien, hein. Ils sont pas normaux, donc est-ce qu'ils sont vraiment humains ? C'est compliqué. Il y a personne qui leur explique.
Donc on invitera le lecteur à découvrir tout ça.
Oui.
Et donc, alors le cercle est terminé.
Oui.
Quels sont tes projets pour la suite ?
Alors, moi, le cercle, si un jour Nesquin vient me toquer à ma porte en disant hey, « j'aimerais bien revoir les personnages, j'aimerais bien qu'on recommence », alors là, quand il veut. Voilà, c'est vraiment une série pour laquelle j'ai des possibilités de faire toujours par triptyque des enquêtes courtes. Enfin, il me reste une foultitude de pouvoirs atypiques à explorer. J'en ai d'autres en tête. J'ai des personnages qui sont déjà là. Donc oui, j'ai très très envie de refaire ça si jamais il revient, mais je le referai avec lui. Donc c'est seulement s'il est d'accord. Voilà. Donc on verra. Sinon, dans mes projets autres, donc là pour l'instant je travaille avec Xavier Collette sur une série steampunk jeunesse qui sortira en janvier. Voilà, donc qui s'appelle Souffle Vent. Je travaille également sur l'adaptation en roman des Enfants d'Evernight, la première série jeunesse que j'ai sortie chez Delcourt, qui sortira chez Castelmore en janvier aussi. Voilà. Et puis bon, bah, j'ai d'autres projets de BD, de romans. Je suis surtout en train de créer là des nouveaux projets en ce moment. Plutôt que de les concrétiser, je suis dans une phase de création.
Parfait, donc au plaisir de lire tout ça.
Hein. Oui.
Merci encore en tout cas pour avoir répondu à toutes ces questions. Et puis donc au plaisir de te lire dans tes prochains ouvrages.
Merci beaucoup.
Merci encore.